Je vous propose d'examiner avec moi un passage de la lettre de l'apôtre Paul à son jeune disciple Timothée. Un passage parmi les plus riches dans le Nouveau Testament, en ce qu'il constitue un condensé de la nature de la Bible et de sa raison d'être. Tiens-toi à ce que tu as appris et dont tu as acquis la certitude. Tu sais de quel maître tu le tiens. Et c'est depuis ton plus jeune âge que tu connais les saintes lettres. Elles sont à même de te procurer la sagesse qui conduit au salut par la foi dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Nous avons ici le conseil d'un maître à son jeune disciple. Que lui dit-il en substance? Tout d'abord, il lui recommande de rester attaché aux choses qu'il a apprises, étant donné qu'il connaît les Écritures saintes depuis son plus jeune âge. Car la connaissance des Écritures procure une sagesse qui conduit au salut par la foi en Christ. Ensuite, pour appuyer cette première remarque, il affirme que les Écritures sont d'origine divine. Elles sont un instrument mis à la disposition de l'homme avec lequel il peut arriver à maturité, réaliser son existence, s'accomplir. Si vous le voulez bien, nous verrons d'abord la question de l'inspiration. Toute écriture ou toute l'écriture est inspirée de Dieu. Cette affirmation est importante pour l'apôtre Paul. Elle est aussi importante pour nous, car elle déclare que le souffle de Dieu a agi sur l'esprit de certaines personnes choisies par lui pour communiquer aux autres dans leur langage un message émanant du Créateur. L'apôtre Pierre explique bien ce mécanisme de l'inspiration lorsqu'il écrit « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Pouvons-nous nous représenter toute l'importance vitale de cette déclaration? Dieu aurait donc parlé. Dieu nous aurait donc parlé. Depuis le commencement, siècle après siècle, il serait donc intervenu dans notre vie par le moyen de ses porte-paroles, pour nous faire connaître ses intentions à notre égard et nos responsabilités à son égard. Cela ne faisait aucun doute dans l'esprit des apôtres, nous le sentons bien. Paul recommande à Timothée de rester attaché aux saintes lettres. Le message de Dieu est consigné en quelque sorte dans un texte écrit. C'est un document que l'on peut consulter et qui peut procurer la sagesse qui mène au salut. De même, l'apôtre Pierre déclare que l'Écriture étant inspirée de Dieu, vous faites bien d'y prêter attention. Il faut donc, mes amis, que la Bible parle à notre cœur, à notre intelligence, à notre raison. Cependant, il faut dire qu'aussi longtemps qu'elle reste un livre, la Bible ne parlera jamais à personne. Elle peut offrir un intérêt historique, anecdotique, littéraire, linguistique. Elle peut être objet de curiosité, de recherche. Mais aucun des efforts de l'homme ne la fera jamais parler, comme on essaie de faire parler un texte ancien, hermétique et mystérieux. Il vous est déjà arrivé, sans doute, d'engager une conversation avec quelqu'un et de vous rendre compte au bout d'un moment qu'il n'y avait pas de dialogue possible. Votre interlocuteur ne faisant que parler. Vous vous êtes dit alors si au moins il pouvait se taire un instant et écouter. Et lorsqu'en de rares occasions vous pouviez dire quelque chose, l'autre n'écoutait pas. Il préparait sa prochaine phrase ou pensait à ce qu'il avait dit. Aucun contact, aucune rencontre, aucune communication possible dans ces conditions. Nous sommes parfois ainsi avec la Bible, pleins de nous-mêmes, pleins de questions méfiantes, de préjugés, de critiques, et nous n'entendrons pas ce qu'elle a à nous dire. Il faut devant elle apprendre à se taire pour écouter avec cette disposition qu'avait le jeune Samuel « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Car la parole de Dieu ne peut toucher qu'un auditoire humble, silencieux, respectueux et attentif. Au milieu du tumulte des peuples, elle est la voix qui conduit à la vie et à la lumière des hommes qui se meurent dans les ténèbres et la confusion. Quand la laissera-t-on parler? Quand aura-t-elle dans notre vie le dernier mot? Vous avez noté que, selon la conviction de l'apôtre, les Écritures sont à même de te procurer la sagesse. Qu'est-ce que cette sagesse? Elle est essentiellement connaissance, pas uniquement un savoir, une accumulation de notions, mais une orientation vers l'essentiel. Et l'essentiel ne peut être que la découverte et la connaissance de Dieu, ainsi que la connaissance de soi-même. C'est ce que Paul appelle la sagesse divine, qui est opposée à la sagesse humaine, laquelle semble se limiter aux choses éphémères de la terre. En fait, Cette sagesse-là fait preuve de folie car, dans sa fièvre à accumuler des connaissances, elle rejette l'idée de Dieu, considérant comme absurde la prédication de l'Évangile. Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, l'apôtre Paul dresse un formidable réquisitoire contre ce dérèglement de l'intelligence humaine, qui rejette l'essentiel. Dans le même contexte, après avoir parlé du Christ, il déclare triomphalement « Dieu a fait de lui notre vraie sagesse. Il est la connaissance suprême qui éclipse tout le reste, celle qui explique tout, éclaire tout. En Christ, je découvre qui je suis, pourquoi je suis et ce que je suis appelé à être. » Nous avons également noté que cette sagesse conduit au salut. Le salut suppose un danger, un naufrage, la perdition. C'est précisément ce que soulignent les Écritures. L'histoire biblique est toute une fresque qui dépeint dans une lumière crue, parfois insoutenable, les générations humaines issues de la chute, héritières des conséquences du péché. C'est une longue procession qui se traîne presque toujours misérablement, poussée, tirée et soutenue par la volonté et l'amour de Dieu, car il a pour eux une intention, un but, un dessein, et les amène jusqu'au pied de la croix. Le Christ est effectivement le centre de toute la Bible. Tout converge vers lui. Tout découle de lui. Cependant, le lecteur de la Bible, l'auditeur de cette parole, au lieu de considérer ce spectacle du monde en témoin curieux, est amené à se reconnaître dans cette humanité qui se traîne. Son âme est sensibilisée à l'idée du péché. Qui plus est, il ne se sent plus en sécurité dans l'anonymat de la foule. Il sait qu'il a une responsabilité personnelle devant Dieu. Il se sent personnellement coupable devant ce Dieu qu'il a offensé par son indifférence, sa lâcheté, son égoïsme, par son habitude avilissante à ne se préoccuper que de sa chair. Cette découverte est vitale. Elle provoque un réveil à l'essentiel, c'est-à-dire à Dieu, à son amour, à Jésus-Christ et à son sacrifice. Il se sent personnellement concerné par tout cela et pose inévitablement cette question qui va le délivrer : que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Que tardes-tu ? Lui dit la parole. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Alors commence une œuvre en lui que la Bible appelle sanctification, c'est-à-dire la formation d'une personnalité spirituelle de plus en plus conforme à Christ. Ainsi, il est écrit : ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Abstenez-vous de toute impureté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. En possession de telles promesses, bien-aimés, purifiez-vous de toute souillure du corps et de l'âme, achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu. Et encore, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ce travail de transformation intérieure ne peut se faire évidemment qu'avec le consentement, la collaboration, les efforts de celui qui s'est engagé pour le Christ. Il est en relation avec Dieu, il lui appartient, il est le réceptacle de son esprit, il lui est consacré. Tel est le but de l'existence humaine, selon l'orientation que lui donne le Christ. La lettre aux Corinthiens contient cette injonction : auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous ? Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps, et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus, car c'est à un grand prix que vous avez été racheté. Honorez donc Dieu et rendez-lui gloire par votre corps même, aussi bien que par votre esprit, car tous deux appartiennent à Dieu. Soulignons également que le but de Dieu n'est pas seulement de transformer l'âme individuelle, mais aussi de se constituer un peuple saint. Voyez comment Paul exprime cette intention de Dieu. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Car la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est levée sur ce monde, illuminant l'humanité entière et apportant à tous la possibilité d'être délivrés du péché. Elle veut nous éduquer et nous amener à nous détourner de toute impiété, à rejeter toute passion et convoitise terrestre, et à renoncer à la course au plaisir. Elle nous enseigne à vivre dans le monde présent avec sagesse, réserve, maîtrise de soi, en toute intégrité et honorabilité devant Dieu. Elle remplit nos cœurs de l'attente ardente de la réalisation de notre bienheureuse espérance, l'avènement glorieux de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ne s'est-il pas livré lui-même pour nous, afin de payer la rançon de toutes nos injustices, et de nous racheter ainsi de l'asservissement au péché, en vue de se créer un peuple purifié du mal qui lui appartienne tout entier et qui se passionne pour l'accomplissement d'œuvres bonnes. Nous voyons ici quel rôle important, indispensable même, les Écritures sont appelées à jouer dans ce travail d'éducation et de transformation. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute œuvre bonne. L'enseignement, la correction, le redressement, c'est tout le programme d'une éducation saine. Et Dieu est ici notre maître, si nous consentons à nous mettre à son école.